Bonjour, vous êtes sur CFM Radio et c'est l'émission Ondes Positives qui commence à l'instant. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue parce qu'Ondes Positives a un an. L'émission est née en juin 2014 et souffle cette semaine sa première bougie. Alors, joyeux anniversaire, Ondes Positives. Je profite du moment pour remercier avec chaleur et gratitude tous les invités qui sont venus donner leur message positif tout au long de l'année. L'émission s'est installée maintenant dans beaucoup de foyers et que tous ces messages positifs soient écoutés et parfois attendus, c'est merveilleux et très émouvant, pour moi en tout cas. Voilà, ceci étant dit, j'accueille à présent mon invitée de la semaine, Cynthia Arenas.
Et bonjour Dorothée.
Cynthia, tu es docteur en analyse de discours. Tu viens nous parler de communication verbale et non-verbale et nous donner tes messages positifs. Le premier parle de tolérance et c'est celui-ci. Le monde est une grande maison où chaque pièce a ses codes. L'ouverture d'esprit est essentielle. Alors j'ai presque envie de dire que l'ouverture d'esprit, c'est comme une clé qui permet d'accéder à tous ces codes.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Et je pense qu'il est important d'ouvrir les yeux et de se nourrir des différences. Donc des différences culturelles, des différences de l'autre. Et effectivement, j'ai eu la chance de voyager, mais même sans voyager en France, on peut aussi le faire. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on a souvent nos voisins, etc., qui sont étrangers. Et donc, nous ne devrions pas avoir peur des différences. Et au contraire, en fait, on pourrait grandir de ces différences.
D'accord. Alors, est-ce que l'ouverture d'esprit, ça s'apprend ou ça se travaille?
Je pense qu'on l'a. Et je pense que plus on côtoie des gens différents, mmh. et plus effectivement, on se déformate. Je pense qu'au départ, on est plutôt formaté. Je sais pas, on est peut-être du sud-ouest, on n'a pas beaucoup bougé, on n'a pas rencontré de gens très différents. Mmh. Et puis petit à petit, on s'ouvre et on rencontre des gens différents. Mmh. On voyage, on rencontre nos voisins, on rencontre des cultures différentes, des milieux différents. Et là, je crois qu'on se déformate. Et quand on se déformate, on gagne en ouverture d'esprit.
Mmh. Alors toi, Cynthia, tu as travaillé ton ouverture d'esprit dès la naissance, si on peut dire, grâce à ta grand-mère.
Oui. Alors, au niveau de la communication non verbale, je pense que c'est grâce à elle, effectivement, parce qu'elle était sourde et muette. Mm-hmm. Elle était sourde et muette et mon grand-père était d'origine andalouse.
D'accord.
Donc, c'est assez amusant parce qu'une Française sourde et muette et quelqu'un qui arrive juste d'Espagne, mm-hmm. Ça peut donner un beau mélange et puis également une bonne voie pour l'ouverture d'esprit des enfants, des petits-enfants, etc.
Et c'est comme ça que tu as appris ou en tout cas pris conscience qu'on pouvait communiquer autrement que par le verbe, que par les mots.
Absolument. Mm-hmm. Par les gestes, en écoutant le corps, en regardant les mimiques, en regardant beaucoup les yeux également, parce qu'en général, les yeux ne trichent pas. Et puis tout ce qui accompagne les mots, lorsqu'on a la chance d'avoir les mots.
Donc tu es devenue, si je peux dire, une spécialiste précoce de la communication non verbale.
Disons que je pense que j'ai compris très tôt l'importance de la communication non verbale. Oui. Et c'est vrai que quand on observe quelqu'un, on se rend souvent compte que où le message sonne juste ou il sonne faux. Et lorsqu'il sonne faux, en réalité, c'est parce que notre cerveau capte que nos gestes trahissent nos mots.
D'accord.
Et dans ces cas-là, nos mots en général ne sont pas toujours ceux qui disent la vérité. Ce sont nos gestes.
D'accord. Ça, c'est super intéressant. Donc, ça veut dire qu'on peut capter ces espèces d'écarts, de dissonance entre ce que l'on dit, la communication verbale, et ce que l'on ne dit pas, qui est la communication non verbale.
Oui. Nos gestes peuvent contredire, en fait, nos mots.
D'accord. Donc, par exemple, une personne qui fulmine, qui est rouge de colère et qui dit « je suis très calme », effectivement, on croit ce qu'il montre et pas ce qu'il dit.
Voilà. Ouais. Mais disons qu'il faut observer la communication non-verbale parce que c'est elle qui dit la vérité.
D'accord. Alors, donc cette première expérience de vie t'emmène à faire un choix d'études, conscient, inconscient, je ne sais pas, mais avec le recul, on a l'impression que ta voie était toute tracée.
Oui, Mais je pense que c'était de manière inconsciente au départ. Mm-hmm. Et petit à petit, effectivement, je me suis rendu compte que c'était forcément pour ça.
Oui.
Mes deux spécialités, c'est la communication verbale et non-verbale et les différences culturelles. Mm-hmm. Et je me rends compte que mon grand-père était étranger et ma grand-mère était sourde et muette. Mm-hmm. Donc, lorsque je me retourne un petit peu, je me dis que finalement, les gens que l'on côtoie, les gens qu'on aime, nous aident à nous construire.
Oui. Alors, tu as commencé par un bac d'art dramatique.
Oui.
Ouais, ça c'est original.
Oui, surtout qu'à l'époque, en fait, il y avait, je crois, que deux écoles en France qui faisaient le bac art dramatique. Et donc, oui, bac art dramatique.
Donc, c'est du théâtre. Donc, ça veut dire qu'on allie le texte à la gestuelle.
Corps, tout à fait.
Ouais.
Au ton, aux mots, à la posture du corps.
Donc on est vraiment dans la communication verbale et non verbale.
Toujours.
L'alliance des deux.
Ouais.
Et puis ensuite tu poursuis par des études de lettres et de droit.
Oui, lettres, droit et sociologie. En fait, c'était lettres, langues, droit et sociologie. Donc, j'ai commencé par le droit, puis lettres, langues, sociologie, parce que je voulais être journaliste.
Oui.
Donc, du coup, je me suis aperçue rapidement des failles que je pouvais avoir. Et donc, je suis partie à l'université essayer de combler ces failles-là. Mm-hmm. Et puis ensuite, j'ai fait des stages. Et puis ensuite, j'ai été embauchée et j'ai travaillé donc dans la presse écrite en tant que journaliste.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et puis ensuite, tu es revenue aux études pour cette fois-ci préparer un doctorat en analyse de discours.
Oui. Je suis revenue aux études parce qu'au niveau du journalisme, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas forcément dire et exprimer tout ce que je souhaitais. Et donc, du coup, je me suis dit, pour dire et pouvoir écrire et publier ce que je souhaite, je vais être chercheuse. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait.
Ouais.
Et puis je crois très fort qu'il faut aller vers le chemin qui nous rend heureux. Et donc ça me rendait heureuse.
Oui.
Donc, du coup, voilà.
Tu dis que ton parcours finalement, t'as pas eu un choix conscient à chaque fois que tu as fait des choix, mais que tu as allé vers ce que tu aimais.
Oui. Oui, oui. Et puis toujours dans la même lignée communication.
Ouais.
Mais je crois très fort qu'on passe tellement de temps en fait au travail.
Oui.
Qu'en réalité, si on n'aime pas ce qu'on fait, on change.
Donc ça, c'est un autre de tes messages positifs. Veiller dans la vie à faire ce que l'on aime.
Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est comme ça qu'on se construit. Et puis c'est comme ça que l'on est heureux. Et puis si on est heureux, on rend les autres heureux.
D'accord. Alors pendant ces études de linguistique, tu ouvres encore plus ton esprit, si on peut dire, et notamment aux différences culturelles. Mmh. Alors si tu veux bien, avant de parler d'interculturalité, en guise de préambule, on partage le premier morceau que tu as apporté, c'est La Maison Monde d'Aldebert.
J'ai besoin de voir le monde bouger, moi, j'ai envie d'avoir des choses à chanter. J'ai besoin de voir de vrais gens jouer, moi. J'ai envie de croire, rire ou bien pleurer dans la maison monde. Dans la maison monde. Moi qui raffole d'épopées, j'ai beau mettre des échasses. Entre l'école et la télé, je ne voyage pas des masses. Mais notre cage d'escalier cache un petit bout de monde. Sur chacun de ces paliers, les origines se confondent. Alors je monte au premier étage chez mes voisins créoles. Moi qui aime les voyages, enfin je décolle. Nous cinq, j'aime bien au fond, j'aime.
Nous toute la plus petite.
Nous qu'a grandi et puis l'amour.
Si la vie pas marchait,
aïe 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 aïe,
il faudrait nous pousser.
Aïe 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 aïe. Moi qui rêvais de faire le tour de la terre en chanson, aujourd'hui je pars en croisière sans quitter mes chaussons. Écoutez les rires, les sons, les clameurs qui grondent. C'est une invitation à entrer dans la ronde. Alors je monte au deuxième étage chez mes voisins tziganes. Moi qui aime les voyages, je suis leur plus grand fan.
Je peux les défendre.
Ils dansent à Yémen,
Menschen spielen hier. Hier will leben, naschen, erwähnen, in der Welt.
Paris à Fort-de-France, de Varsovie à Kinshasa. On se rit des distances, la musique c'est comme ça. Alors je monte au troisième étage et débarque au Congo. Moi qui aime les voyages, j'entre tout de go. La maison en ajoutant des étages, si on agrandit la chanson, on prolonge le voyage. J'ai besoin de voir le monde bouger, moi j'ai envie d'avoir des choses à chanter. J'ai besoin de voir de vrais gens jouer, moi. J'ai envie de croire, rire ou bien pleurer. Dans la maison monde. Dans la maison monde. Dans la maison monde. Dans la maison monde. Dans la maison monde.
La maison monde d'Aldebert. Alors Cynthia, quel message veux-tu nous faire passer à travers ce choix de chanson?
Le message que même sans voyager, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, même sans voyager, en réalité, en France, en fait, on peut, avoir des voisins extrêmement différents. Mm-hmm. Et puis, je crois que, il est bon de les rencontrer, il est bon d'échanger, il est bon de se nourrir de ces différences et de grandir de ces différences.
D'accord. Alors, on est tous, on va garder cette image, on est tous dans la même maison. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que parfois on ne s'entend pas ou on ne se comprend pas?
Alors déjà, dans une même culture, on peut ne pas s'entendre ou ne pas se comprendre. Oui. On peut en fait parler la même langue, c'est-à-dire le français, et puis ne pas vraiment parler la même langue et ne pas se comprendre.
Oui.
Alors il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir le découpage de l'information. Vous avez des personnes qui sont sur un registre très précis. Hein? Donc par exemple, vous leur demandez où sont les toilettes, elles vont vous dire vous prenez à gauche, puis à droite, vous allez voir une porte bleue, c'est pas la porte bleue, c'est la porte rouge. Et au bout d'un moment, on en a marre. Mm-hmm. Et puis la personne globale qui va dire au fond à gauche. Mm-hmm. Et le problème, c'est que l'une et l'autre peuvent avoir des difficultés pour mm-hmm. s'entendre. Mm-hmm. Parce que l'une peut saouler l'autre. Et puis la seconde peut penser également que la première fait de la rétention d'informations.
Oui, d'accord.
Et il peut y avoir également les registres sensoriels. Mm-hmm. Vous avez des personnes qui sont très visuelles et d'autres très auditives. Et en fait, on parle ce que l'on est. Donc ça veut dire qu'une personne très visuelle voit les choses, une personne très auditive les entend. Mm-hmm. Donc déjà, elles n'utiliseront pas forcément le même vocabulaire.
Par exemple, une personne visuelle va dire tel projet, je le vois plutôt comme ça.
Voilà, ça offre une bonne perspective. Est-ce que j'ai été claire, etc. Mm-hmm. Et en fait, la personne en fait qui est auditive va bien entendre le message, mm-hmm. mais elle ne va pas forcément visualiser comme le visuel.
D'accord.
Donc du coup, c'est un peu plus difficile.
Alors, ce qui fait que on ne se comprend pas à tous les étages, c'est bien souvent juste des codes de communication.
Absolument.
Qu'on n'a pas pris en compte.
Absolument.
C'est ça?
Dans la oui. plupart des conflits, en réalité, la base du conflit est un problème communicationnel. Uh-huh. Et ça, dès qu'on le sait, en fait, on se dit, mais c'était juste ça. En fait, je ne m'entends pas très bien avec cette personne-là, juste pour ça. Et du coup, en fait, on dédramatise, on allège, et puis tout va mieux.
D'accord. Donc, à partir du moment où on prend conscience que l'autre, qui est différent, obéit à son code à lui, alors, on est plus enclin à comprendre qu'il agisse différemment de nous et finalement, c'est OK.
Mais c'est-à-dire qu'on n'interprète plus, puisqu'on ouais. sait. Oui. À partir du moment où on connaît nos différences, eh ben en fait, on n'est plus dans l'interprétation. On ne se dit plus que le global fait de la rétention d'informations ou que le précis nous saoule et essaie de noyer le poisson. Mm-hmm. En fait, on se dit juste qu'on a un code, on a un code communicationnel différent et ben qu'il faut l'accepter. Mm-hmm. Un petit peu comme les différences, voilà, d'accent, de culture, de couleur, on est différent.
Donc, travailler sur cette communication, ça nous rend beaucoup plus tolérants.
Absolument. Et puis, c'est surtout que ça nous simplifie la vie. Je veux dire, on est beaucoup moins stressé quand on n'est pas dans l'interprétation. Quand on est dans l'interprétation, on est tout le temps en train de calculer, de se dire, voyons, il a dit ça parce que ça. Et on revient sur les mots si on est auditif. Et on revient sur le ressenti si on est kinesthésique. Mm-hmm. Sur les images qu'on a eues, positives ou négatives à ce moment-là, si on est visuel. Mm-hmm. Donc, ça peut être très compliqué de vivre dans l'interprétation.
D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien ces codes, puisqu'on est dans l'émission positive, on parle d'optimisme, de joie, d'enthousiasme, etc. Est-ce que il y a différents codes pour montrer cet état d'esprit? Par exemple, est-ce que on pourrait chacun de notre côté dans cette maison monde être joyeux, optimiste et enthousiaste et pas voir que l'autre l'est également parce que tout simplement il a pas la même façon de l'extérioriser.
Disons qu'on a la chance pour la joie, l'optimisme, etc. On a la chance d'avoir en commun, en fait, le sourire.
Ouais.
Même si au niveau des personnes asiatiques, par exemple, on a la culture de la face. Mais du coup, on peut ne pas voir parfois. Mm-hmm. Mais on a la chance d'avoir tous en commun, en fait, ben, le sourire.
Oui.
Et dès qu'on commence à inclure l'autre, eh bien, en fait, on transmet des messages positifs.
D'accord.
Dès qu'on commence à marquer les différences, eh bien, on est dans l'exclusion et dans ces cas-là, on transmet plus de messages positifs.
D'accord. Donc, pour les valeurs positives, finalement, c'est celles peut-être qui se communiquent le mieux grâce au sourire. Hein.
Oui, le sourire, la voix, le regard. Lorsqu'on regarde vraiment une personne, les personnes étrangères souvent disent les Français ont un problème, c'est que lorsqu'ils demandent bonjour, ça va, et ben en fait ils n'attendent pas la réponse. Mmh. Et c'est vrai, c'est quelque chose que l'on a. On regarde plus forcément les personnes. On dit bonjour, ça va, oui ça va, et toi ça va, oui ça va.
Mmh.
Et pour une personne étrangère, parfois c'est assez déstabilisant. Mmh. Donc le sourire, le regard, et puis quand on demande si ça va, et ben vraiment attendre la réponse et vraiment regarder la personne.
Mmh. Alors ce qui me vient là aussi comme exemple, c'est que moi en tant qu'Européenne, quand je regarde les Américains, je les trouve hyper joviales, très enthousiastes, ils sont toujours très contents de tout. Alors du coup on a l'impression que c'est un peuple très gai, très optimiste. Est-ce que c'est une réalité ou c'est simplement qu'ils sont pas sur les mêmes codes justement en communication non verbale, mais qui sont finalement pas plus optimistes que nous?
Alors, optimiste, je ne sais pas, mais en revanche, les États-Unis en réalité ont quelque chose de naturel qui est tourné vers l'autre. C'est-à-dire que par exemple, le bénévolat, c'est quelque chose de naturel et qui est placé déjà dans les écoles.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on est mieux noté si on fait du bénévolat, si on participe à des associations, etc., etc. Donc, le fait d'être tourné vers l'autre, ça, c'est une réalité.
Mm-hmm.
Alors, on peut aimer ou ne pas aimer les États-Unis. Mais en tout cas, ça, c'est une réalité. En France, effectivement, le bénévolat, j'ai envie de dire, c'est presque moins naturel. C'est-à-dire que, heureusement, il y a des associations, il y a des bénévoles, il y a des gens qui aident les autres, etc. Mais il y a également, en fait, une grande part de la population qui est toujours étonnée lorsqu'on fait quelque chose de gratuit. Mmh. Et donc, dans ces cas-là, on interprète et on se dit, mais qu'est-ce qu'il attend en échange? Alors que finalement, aux États-Unis, ça paraît plus léger. Mais parce que c'est plus léger, mais on donne de manière naturelle.
D'accord.
Voilà. Il faut juste que nous, en France, on arrive à donner gratuitement et puis surtout à recevoir, à recevoir naturellement.
Oui.
C'est-à-dire, ben oui, je reçois. Ça me fait du bien et je reçois et je suis heureuse de recevoir.
Sans justement se sentir redevable.
C'est ça. Alors, et c'est difficile. Hein.
Ouais, et ça aussi, c'est un message positif. Travailler sur le fait de recevoir, donner. Effectivement, on nous apprend à donner. On sait dans notre culture judéo-chrétienne que donner, ben c'est bien. Mais on peut aussi travailler sur le recevoir parce que généralement, enfin assez souvent, recevoir, c'est compliqué.
Oui, absolument. Mmh. Lorsqu'on travaille sur obtenir une démarche assertive, donc c'est-à-dire être vraiment sur une relation gagnant-gagnant, je suis dure avec moi-même, du coup je peux me permettre d'être dure avec les autres et l'autre va accepter. Mmh. Je suis en capacité de dire non, mais plus on travaille sur cette démarche assertive et plus on travaille sur le fait de donner, recevoir.
D'accord.
Voilà.
Ok. Bon, très bien. Merci pour ces exemples. Alors, on revient sur les mauvaises interprétations. Tu nous disais que généralement, les problèmes de communication viennent de la façon dont on a interprété les messages que l'autre nous envoie. Hein. Et c'est de ces mauvaises interprétations que naissent les conflits.
Absolument. Hein.
Alors, est-ce qu'il faut que tout le monde soit docteur en analyse de discours pour éviter les conflits?
Non, mais ce qui serait... Non, parce qu'en fait, on a des intuitions et ça aussi, on ne s'écoute pas suffisamment.
Oui.
Alors, c'est difficile parce que d'une part, je dis il ne faut pas interpréter et d'autre part, je dis il faut savoir suivre ses intuitions. Donc, oui. ça paraît presque paradoxal, mais ça ne l'est pas. Je pense que notre cerveau, en fait, capte des informations, en fait, qu'on n'a pas appris à analyser.
Mmh.
Donc, à partir du moment où on apprend à analyser simplement les choses, je veux dire, quand j'ai des personnes en formation, la première des choses souvent que je donne, c'est, regardez, écoutez-vous, et puis vous voyez, telle personne est plutôt sur un découpage global, précis, sur tel registre sensoriel, sur tel... Donc, vous avez vu, on est tous différents là. Mmh. Et pourtant, on va travailler 2 jours, 3 jours ensemble.
Mmh.
Et rien que ça... Ben déjà, dès le début de la formation, ça ouvre un petit peu les yeux. Et puis on se dit, mais c'est vrai en fait, on m'aurait pas expliqué ça, ben j'aurais peut-être eu du mal avec cette personne-là ou cette personne-là.
D'accord. Donc en fait, la première étape, c'est la prise de conscience, tout simplement, oui. Que les autres sont sur un code différent.
Tout à fait. Et savoir également reconnaître ces codes.
Mmh.
Et il y a des façons de savoir reconnaître ses codes. Est-ce que la personne est visuelle? Est-ce qu'elle est auditive? Je l'entends, mais je regarde aussi ce qu'elle fait.
Mmh.
Une personne qui est visuelle, elle va souvent avoir les yeux en l'air lorsqu'elle réfléchit. Une personne auditive, elle va garder la pupille au niveau des oreilles.
Mmh.
Donc déjà, on peut se dire, si on couple les mots, la gestuelle, et on revient à communication verbale et non-verbale,
oui.
Et bien on a ça.
D'accord. Donc finalement, communiquer devient un jeu très amusant. Alors si on commence à, oui. Si on connaît les, enfin si on comprend comment décortiquer les codes.
Mais je crois qu'on apprécie plus l'autre.
Ouais.
Et en fait, c'est une réalité. Dès qu'on décrypte des codes, ouais. Et ben en fait, je crois qu'on aime plus les gens.
Ah. Et donc si on aime les gens, ben on n'est pas contrarié et on n'a pas envie de se bagarrer.
Et au contraire. Voilà. Au contraire, on a envie d'inclure l'autre et puis d'apprendre encore plus de différences.
Ouais. Alors tu dis même que c'est en connaissant mieux les autres qu'on peut mieux se connaître soi.
Oui,
c'est dans ce sens que tu vois les choses, et c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Donc justement, ça pointe la différence qu'il peut y avoir entre les personnes. Pour toi, c'est une nécessité de connaître l'autre pour se connaître soi-même.
Oui.
Ta vie est faite comme ça.
Oui, mais ouais. Je pense qu'on grandit grâce aux autres. J'ai des amis d'enfance, je suis restée amie avec mes premiers petits copains, par exemple. Ça paraît étrange dans notre culture, etc. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes que l'on croise participent en fait à notre vie et à notre construction. Donc effectivement, en fait, plus on observe l'autre et plus on se connaît soi-même.
D'accord. Alors tu m'as dit que tu as des amis sur tous les continents, presque, et que ces rencontres t'ont permis de te découvrir un peu plus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu peux apprendre sur toi à travers certaines relations, certaines amitiés?
Alors, ça m'a permis ou d'apprendre un peu plus sur moi, ou en tout cas de gagner une ouverture d'esprit.
Mmh.
Si jamais vous allez, par exemple, lorsque je suis allée au Sénégal, et c'était la même chose lorsque je suis allée en Turquie ou en Tunisie, en fait, j'ai rencontré, par exemple, des personnes qui n'avaient rien, ou si peu, et en fait, qui partageaient pourtant le peu qu'ils avaient. Et le peu qu'elles avaient. Et c'est vrai que, du coup, on revient en se disant, mais zut, moi j'ai tout. Et c'est vrai, je veux dire, je suis chanceuse, j'ai tout, j'ai un boulot qui me plaît, je suis bien entourée. Et qu'est-ce que je peux rendre, moi, de tout ça? Donc, du coup, on a envie encore plus d'aider les autres, de participer à des associations, d'aider, de rendre un petit peu ce qu'on nous a donné.
D'accord.
Après, avec les amis colombiens, j'ai appris quelque chose qui était plutôt intéressant, c'est que quand la mort fait partie de la vie, et bien en fait, il faut encore plus aimer la vie.
Oui.
Et donc je me dis, Et bien effectivement, les personnes d'Amérique latine, elles sont tout le temps en train de sourire.
Oui.
Et j'ai vécu donc avec une amie en colocation en fait pendant un an et demi, une amie colombienne, Eliana Luz. Alors Luz, en plus c'est la lumière.
Oui.
Donc et elle, c'était assez amusant parce que elle me disait mais c'est bizarre hein, en France, les gens ne sourient pas naturellement. On dirait que les gens ont peur.
Mmh.
Et en fait, elle est d'abord arrivée à Paris.
Mmh.
Donc, vous quittez la Colombie et vous arrivez à Paris et vous vous dites oups. Et après, elle est venue dans le sud-ouest et elle a vu que, ben, effectivement.
On n'était pas comme les Parisiens.
Il y avait des gens qui souriaient, il y avait des gens qui souriaient moins.
Oui.
Mais du coup, lorsqu'elle rencontrait une personne française, moi, elle me disait souvent, tu es la femme française, en fait, la moins française que je connaisse.
Mmh.
Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et en fait, je crois que c'était par rapport à ça.
D'accord. Alors c'était peut-être tes origines andalouses qui c'est comme ça que tu t'es dit ah tiens, je prends conscience que finalement il y a autre chose en moi que la femme française que je suis.
Oui oui, ouais. Il y a les racines. Ben oui, mes racines, j'ai l'impression que je suis française, ça c'est certain. Et mes racines oui, sont en Andalousie.
D'accord.
Dans un petit village qui s'appelle Aronia. Uh-huh. À une heure de Séville.
Alors, une partie de tes racines sont en Andalousie et en même temps, tu te sens très ancrée dans le Pays Basque.
Oui.
Et ça aussi, c'est à travers les autres que tu en as pris encore plus conscience.
Oui. J'ai passé mon enfance donc dans le Pays Basque, mon adolescence, et si mes racines sont en Andalousie, mon cœur est au Pays Basque, ça c'est sûr.
Mm-hmm.
J'ai des amis là-bas, j'ai ma famille, et puis voilà, j'ai mon cœur au Pays Basque.
Mm-hmm.
Et en faisant des formations, je travaillais avec les personnes sur l'ancrage.
Oui.
Donc l'ancrage, c'est ce qui permet en fait, lorsqu'on est déstabilisé en fait, de récupérer du positif,
mm-hmm.
de manière en fait à aller mieux, tout
oui.
simplement. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je donne un exemple. Et du coup, eh bien, j'ai donné mon ancre. Et mon ancre, effectivement, c'est un endroit au Pays Basque qui s'appelle Socoa,
mm-hmm.
et que j'aime beaucoup. Et effectivement, là, j'applique tous les registres sensoriels, c'est-à-dire que ben là, rien qu'en parlant, et ben en fait, je vois l'océan, j'entends la mer, et effectivement, je touche le rocher sur lequel je suis assise,
mm-hmm.
et c'est vraiment tout à fait ça. Je ressens une certaine émotion, et puis je sens l'eau iodée, et j'ai même envie de dire, si je passe mes lèvres sur ma bouche, c'est ma langue sur mes lèvres, excusez-moi,
ouais.
et ben en fait, je sens le sel.
D'accord.
Et ça permet en quelques dixièmes de seconde d'ouvrir le tiroir, de mm-hmm. regarder et de le refermer.
D'accord.
Et on peut l'utiliser ben, quand on est très stressé.
Mm-hmm.
Et voilà, je l'ai utilisé l'année dernière, j'avais une conférence où on m'avait annoncé 60 personnes. Et quand je suis arrivée, en fait, il n'y avait pas 60 personnes. L'amphi était plein. Et là, je me suis dit, oups. Et ben là, j'ai ouvert le tiroir.
Oui.
Et puis j'ai regardé. Et puis je l'ai refermé. Et je me suis dit, mais... il n'y a rien de mieux.
Mm-hmm.
Donc, en fait, j'ai pas eu de montée négative.
D'accord. S'ancrer, ça porte bien son nom. C'est jeter l'ancre, c'est donc se stabiliser, trouver un terrain où on est apaisé.
Tout à fait.
Hein?
Et en fonction de nos registres sensoriels.
Ouais.
Si on est plus visuel, eh ben, on va avoir une image. Si
mm-hmm.
on est plus auditif, on va avoir une autre image. Moi, je suis sur tous les registres sensoriels grâce à ma grand-mère.
D'accord.
Vu qu'elle avait en plus ce que les autres avaient en moins, et moi, j'avais en plus d'elle, en fait, eh ben, le parler et,
mm-hmm.
et l'ouïe.
Mm-hmm.
Ben, du coup, je suis sur tous les registres sensoriels. Et ça se transmet. Donc c'est voilà.
D'accord. Alors puisqu'on est parti au Pays Basque, on y reste. On écoute un morceau de rock basque. C'est le groupe Itoiz et le titre du morceau Belanduda.
Informe verbal.
et le morceau Belandouda. Alors pourquoi tu as choisi cette musique?
J'ai choisi cette musique, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ben, mon encre est au Pays Basque et mon cœur est au Pays Basque aussi. Mm-hmm. Et puis parce que j'ai un rituel que j'ai communiqué à ma fille. Et tous les matins, on se choisit une chanson. Enfin, tous les matins, quand j'ai la chance de l'avoir le matin et que je ne commence pas à 7 heures du matin. Mais on se choisit une chanson et on danse. Mm-hmm. Et E-Toys, effectivement, c'est ce qui nous booste. Et puis E-Toys, c'est mon adolescence. C'est un groupe qui est plutôt connu sur le Pays Basque.
D'accord.
Et qui est plutôt bien, qui est plutôt rythmé. Et puis, je crois que quand on danse, eh ben, on est vrai. Et du coup, ben, si on se libère des énergies négatives le matin et que l'on danse, et ben en fait, on est vrai toute la journée.
D'accord, ben c'est un bon conseil positif de mettre une musique qui nous plaît, de danser le matin seul avec ses enfants, avec qui on veut,
de sauter pour les voisins, c'est assez amusant. Et puis on passe un peu pour des folles, mais qu'est-ce que c'est bien.
Super. Alors on va continuer à parler de communication non verbale.
Oui.
Donc, si on voulait résumer, la communication non verbale, c'est de l'information qu'on donne, mais qui n'est pas dite.
Tout à fait.
Oui.
Et puis, qui peut contredire notre discours.
Oui.
C'est pour ça que la première des choses, lorsque je forme des personnes, je leur dis attention, on va être dans le parler vrai. Mm-hmm. Parce que si on n'est pas dans le parler vrai, eh bien, effectivement, nos gestes, en fait, vont montrer à l'autre qu'on ment.
Et tu me disais que même les odeurs, c'est-à-dire le parfum qu'on choisit de se mettre,
oui,
donne un message à l'autre.
Oui, absolument.
Ça fait partie de la communication non verbale.
Absolument. En programmation neurolinguistique, en fait, on a les 5 registres dont je parlais tout à l'heure. On a le visuel, on a l'auditif, on a le kinesthésique, on a l'olfactif et le gustatif. Mm-hmm. Et l'olfactif, ben, je me rends compte que quelquefois, quand j'interviens en entreprise sur de la gestion des conflits, ça peut simplement venir d'un problème d'odeur, d'un parfum un peu trop capiteux, d'une personne qui a des problèmes également d'odeur.
Oui.
Mais voilà. Donc,
mais d'ailleurs, on le dit souvent, mais cette personne, je ne
peux pas la sentir.
Ouais.
C'est ça.
Voilà.
C'est tout à fait ça.
Et on se rend pas compte que là, on est sur le registre olfactif.
Tout à fait. Mm-hmm. Une personne qui dit, elle, je n'ai jamais pu la sentir, ou ah, ça, je le sens bien, etc. C'est une personne, en fait, qui est olfactive. Et après, quand on l'observe, c'est assez amusant parce que juste avant de s'énerver, une personne olfactive, elle bouge les narines.
D'accord.
Alors que, et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et du coup, on peut encore rattraper les choses. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore dit les mots, mais on sait déjà qu'elle va s'énerver.
Donc, on parlait de codes tout à l'heure, c'est exactement ça, les codes.
C'est
les mots qu'on
ça.
Emploie, les narines qui frémissent, etc.
C'est tout à fait ça. Notre corps parle pour nous.
Ouais. Alors, j'ai envie de dire que finalement, cette communication non verbale, c'est la vérité de soi.
Tout à fait.
Ouais.
C'est pour ça également que ben, quelquefois, quand on regarde des politiciens à la télé, des politiciens qu'on a trop transformés, et ben effectivement, tout d'un coup, ça sonne faux. Et du coup, on n'a plus confiance en tel ou tel politicien alors qu'on a voté pour lui.
Mm-hmm.
Ben, tout simplement, c'est parce qu'en fait, il a eu une équipe de communication qui a trop cherché à le transformer.
D'accord.
On peut gommer des imperfections, on peut faire des choses, mais ce qu'il faut, c'est ne pas se changer.
Ça veut dire que tous autant qu'on est, quand on est spectateur, par exemple, d'un homme politique, rien que intuitivement, on est capable de voir là où il y a des dissonances entre ce qu'il est en train de raconter et ce qu'il est vraiment.
Tout à fait. Notre cerveau nous dit « Ah, là, j'y crois pas ». Ou « Oh, il a beaucoup changé ». Mais il a beaucoup changé parce qu'on l'a fait beaucoup changer.
D'accord.
Et lorsqu'effectivement j'interviens auprès d'élus, eh ben, en réalité, c'est la première chose que je leur dis. C'est-à-dire, je vous préviens, on va pas modifier tous les comportements, on va assouplir. Donc si par exemple l'élu a tendance à avoir les bras croisés posés sur son ventre, eh ben effectivement, on va ouvrir les bras, les monter légèrement vers le haut, mais on va pas faire des grands gestes parce que sinon les autres vont avoir l'impression qu'on brasse du vent.
D'accord.
Donc c'est-à-dire que on monte légèrement la gestuelle, mais on ne la transforme pas. Et puis, de toute façon, vous transformez la gestuelle de quelqu'un, dès qu'il est énervé, dès qu'il est déstabilisé, il reprend sa gestuelle initiale. Donc,
ouais,
c'est
le naturel revient.
Tout à fait.
D'accord. Donc, assouplir la communication non verbale, c'est travailler sur la gestuelle. Et puis, ça peut être quoi d'autre aussi, à part la gestuelle?
Travailler sur la gestuelle...
Pour la radio, par exemple, parce que la gestuelle, on s'en fiche.
Alors, pour la radio, pour parler au plus grand nombre, par exemple, et c'est ce que les élus apprennent également...
Oui.
Et lorsqu'ils doivent parler face aux médias, et bien effectivement, c'est pouvoir caser un ou deux mots en fait qui n'appartiennent pas à notre registre de discours. Donc si par exemple je suis très visuelle et que je ne dis jamais j'entends, eh bien je vais parler d'accords, je vais parler de sons de cloches différents, je vais parler d'entendre.
D'accord.
Et effectivement il suffit, alors c'est pareil, on ne se transforme pas, mais on rajoute juste un ou deux mots qui ne sont pas de nos registres. Et tout d'un coup, alors que l'auditeur, si on parle de la radio, alors que l'auditeur à un moment donné avait décroché et entendait bla 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 bla, eh bien tout d'un coup en fait son cerveau est capté.
D'accord.
À nouveau.
Parce que ce n'est pas des mots qui sont dits généralement, c'est ça?
C'est parce que l'auditeur qu'on a perdu ne fait pas partie du même registre que nous. Donc à partir du moment où en fait on l'a perdu et que l'on place un mot en fait qui appartient à son discours à lui et non pas au nôtre, tout d'un coup le cerveau est à nouveau capté et dans ces cas-là on reprend en fait l'écoute de l'autre.
D'accord. Très bien. Alors, je rappelle quand même que pour toi, travailler en communication verbale ou non verbale avec des personnes, ton objectif, c'est de laisser passer le vrai message. Ça, c'est une valeur importante pour toi. Rester dans la vérité.
C'est indispensable. Et d'ailleurs, je me rends compte que je suis plutôt entourée de gens vrais.
Oui.
Là, je prépare des formations en ce moment avec des formateurs, notamment Laurent Espinoza.
Il est venu dans Onde Positive.
Voilà. Et qui a effectivement, qui est plutôt vrai également. Et je me rends compte que, je suis de manière générale, dans ma vie professionnelle et personnelle, bien entourée. Alors peut-être que inconsciemment, j'élimine.
Oui.
Certaines personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'arrange pour m'entourer de gens vrais. Alors effectivement, il m'est arrivé, notamment juste avant les élections l'année dernière, de ne pas accepter un élu du secteur toulousain, parce qu'effectivement, sa communication non verbale contredisait complètement sa communication verbale, et il m'assurait qu'il disait la vérité, etc. Donc j'ai été diplomate, je lui ai pas dit je veux pas travailler avec vous. S'il écoute, ça va être bien. mais je lui ai simplement expliqué qu'effectivement, je n'avais pas de place avant le mois d'avril.
D'accord. Alors, de toute façon, les personnes qui essayent de travestir leur communication non verbale se voient.
Oui.
Le public le sent. Donc, ça ne sert à rien.
Oui, mais il a été réélu, ce monsieur.
Quand même.
Pas grâce à moi.
Bon, pour toi, c'est en fait la communication non verbale, c'est un peu le triomphe de la vérité, quelque part. C'est assez beau.
Oui. Mais ça simplifie les relations. En fait, je travaille sur ces formations-là pour simplifier la relation avec l'autre. Les relations professionnelles, mais beaucoup, en fait, le ramènent chez eux. Ils s'en servent pour les relations personnelles.
Oui.
Et effectivement, je pense que le parler vrai, ça participe à ça.
C'est vrai qu'on a parlé d'interculturalité, d'échanges dans les entreprises, etc. Mais tout ce que l'on dit peut s'adapter aussi à la sphère familiale, évidemment.
Absolument.
On peut dans une même famille avoir un visuel, un auditif, un kinesthésique, et puis qu'il y ait des frictions entre toutes ces personnes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes codes.
Tout à fait. J'ai eu des couples à mon cabinet qui étaient dans qui étaient de registres différents et qui n'arrivaient pas à se comprendre.
Oui.
Et ils n'avaient pas un problème à gérer avec un thérapeute, ils avaient juste un problème communicationnel. Et dans ces cas-là, il suffit juste de repérer les codes de l'autre et de dire, vous voyez, quand vous pensez ça, quand vous pensez que madame est jalouse parce qu'elle vous pose plein de questions, elle n'est pas encore dans la jalousie. En revanche, si vous ne répondez pas aux questions parce que vous estimez qu'elle est trop intrusive, effectivement, là, elle commence à interpréter et elle va commencer à être jalouse. Mais dans le premier questionnement, madame n'est pas forcément jalouse.
Donc il y a beaucoup de pré-conflits, de naissances de conflits qui sont tout à fait récupérables simplement en travaillant sur la communication.
Tout à fait. Et en peu de temps, en quelques heures en fait, on a tout récupéré et on se dit « Ah !» Il y a un monsieur un jour qui m'a dit « Ah, mais je redécouvre mon épouse ou j'ai une nouvelle épouse. »
Ouais.
Et mais c'est tellement chouette.
Il avait compris son code.
Il avait compris son code et c'est surtout qu'elle avait compris le sien.
Les deux. Oui, c'est mutuel. Alors, on fait une nouvelle petite pause musicale, on change de registre et on part avec Luz Casal, Piense en mí.
Tienes un ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Luz Casal, Piensa en mí, c'est une chanson que nous amène Cynthia Arenas, mon invitée de la semaine dans Onde Positive. Alors Cynthia, tu nous emmènes une merveilleuse chanson que j'adore. Est-ce que tu peux nous en donner quelques mots, nous dire quelques mots?
Oui, j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Tout d'abord parce que c'est Luz Casal. Elle a une voix qui est merveilleuse, une voix très sensuelle, très chaleureuse. Bon, elle parle en espagnol, donc forcément, ça me parle et ça me plaît. Mm-hmm. C'était également une chanson qui était dans un film d'Almodovar, et j'adore Almodovar. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis, indépendamment de ça, effectivement, elle est triste quand on l'écoute. Et puis moi, ça me ramène à plein de moments heureux quand je l'écoute, heureux mm-hmm. de ma vie, avec des personnes que j'ai perdues mm-hmm. et qui sont parties beaucoup trop tôt. Et puis ça me permet chaque fois de me recentrer et de me dire qu'en réalité, il ne faut pas oublier les gens qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mm-hmm. Et nos disparus, tout à l'heure je parlais des gens vivants, mais nos disparus, ils font aussi en fait, ils ont participé à ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui.
Et du coup, c'est une chanson qui est très triste et qui moi après me rebooste et me rend super gaie.
Mais c'est ta colocation avec ton amie colombienne, ça, qui t'a donné un regard différent sur la mort et.
Non, je pense que c'est la vie qui m'a donné ça parce qu'effectivement, à chaque étape de ma vie depuis toute jeune, j'ai perdu des gens et j'ai perdu des gens qui avaient 18 ans, qui avaient 22 ans, qui avaient 24 ans, qui avaient 80 ans. Et là, culturellement, il y a encore autre chose, c'est qu'en France, souvent, quand vous perdez quelqu'un, on vous dit ah bon, il avait quel âge? Comme si, en fait, le fait d'avoir 80 ans, ça excuse. Et en fait, non, on souffre, je crois, de la même manière, et de perdre des gens, en fait, jeunes et des gens plus âgés. Mais en revanche, il est bon de se rappeler de ces moments-là. Mm-hmm. Pas des moments de tristesse au moment où on les a perdus, parce que ça, c'est le côté égoïste, en fait. Mais de se souvenir, oh, mais quelle chance j'ai eu de côtoyer cette personne-là, ou de vivre avec cette personne-là, ou d'apprendre, de grandir avec cette personne-là.
Mm-hmm. Voilà un message très positif. Merci beaucoup. Alors Cynthia, tu es maintenant formatrice depuis une dizaine d'années. Hein,
oui.
Et en 2013, tu as créé ton propre cabinet, Arenas Consulting,
oui.
À Toulouse. Mm-hmm. Alors je ne sais pas s'il est à Toulouse ou s'il est plutôt à côté de Pau.
Alors j'interviens sur Toulouse et j'interviens également sur Pau et j'interviens au sein des entreprises et j'ai également mon cabinet en fait sur Arbas.
D'accord, ok. Et alors tu Arbas c'est dans le 64 hein,
c'est dans le 31.
Ah encore dans le 31.
Et ce serait à mi-chemin entre Toulouse et Pau.
D'accord.
Donc effectivement j'interviens sur ce secteur-là et après j'interviens également beaucoup sur Paris.
D'accord.
Et voilà.
Alors, et donc tu interviens pour dispenser tes connaissances, tes conseils en communication,
hein, oui.
Et en gestion des conflits, c'est ça?
Oui. Alors, une des formations, c'est la gestion des conflits, effectivement. Et sinon, les autres formations, ce ne sont que des formations qui sont tournées en fait vers la communication. Mm-hmm. Donc, mieux communiquer avec l'autre, mieux communiquer avec ses patients aussi.
Mm-hmm.
J'ai des médecins qui font appel à moi pour mieux communiquer avec leurs patients, mais également avec les accompagnants. C'est pas toujours évident, en fait. Quelquefois, on dit brutalement les choses aux accompagnants.
Oui.
Donc on réapprend à communiquer différemment. Et voilà, gagner une démarche assertive. Donc en fait, j'ai la chance, et c'est un luxe aussi, d'avoir un public très large. Donc des personnes au niveau de l'aéroport de Pau l'année dernière, des banquiers, des médecins, des personnes qui sont à l'accueil et qui voilà, des personnes qui ont besoin de vendre mais qui veulent vendre de manière un peu plus efficace ou humaine. Et voilà,
donc, on a tous besoin de travailler notre communication,
c'est
hein.
Ça et c'est pour ça que c'est vaste et c'est pour ça qu'en même temps c'est tellement enrichissant.
Alors est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Pour les personnes qui voudraient te contacter.
Alors, mes coordonnées, tout d'abord, il y a arenasconsulting.fr.
D'accord.
arenasconsulting.fr, ça c'est le site internet.
Oui.
Et après, mes coordonnées téléphoniques, en fait, on peut me joindre. Ma ligne professionnelle, en fait, c'est le 06 61 56 81 11.
D'accord, donc on reprendra tout ça sur le podcast de l'émission.
Parfait.
Je te remercie beaucoup Cynthia pour tes messages de tolérance, d'authenticité, de paix, de respect des autres et de soi-même.
Eh bien merci beaucoup, merci pour l'émission et puis joyeux anniversaire.
Merci. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que cette émission vous aura ouvert de nouvelles frontières. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission samedi à 21h sur les ondes de CFM et à la demande sur le podcast internet cfmradio.fr. Vous pouvez aussi me contacter pour participer à l'émission par mail dorothée.alio@hotmail.com. Je vous souhaite une belle semaine, riche en échanges, communicante, et à mardi prochain.
C'est bon pour ce que vous avez.
C'est bon pour ce que vous avez.
CFM. L'esprit rock.